chers auditeurs. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin.
Bonjour Evelyne.
Bonjour Eric, mon assistant. Bonjour, nous avons une stagiaire,
oui,
qui s'appelle...
Jeanne.
Bonjour, je m'appelle Jeanne.
Très bien. Et puis nous avons un invité que vous connaissez très bien, puisque c'est monsieur Eric avec un K, Eric Svahn, qui est américain et danois. Et alors Eric Svahn et moi-même, nous ne sommes pas historiens et nous ne nous prenons pas des historiens pour des historiens. Mais néanmoins, nous allons faire un petit peu comme l'an dernier, puisque ça avait très bien marché. Nous allons parler d'un fait qui est quand même capital, puisqu'il va s'agir des 250 ans de l'Amérique. Alors, bon anniversaire l'Amérique, c'est le titre de notre émission.
Happy birthday.
Et
happy birthday.
Nous Absolument. Allons la faire en deux parties parce que véritablement, le sujet est tellement, tellement vaste qu'en fait, il faudrait en parler toute l'année.
C'était très intéressant l'année dernière,
oui.
C'était sur les conflits et cette année
et
sur l'histoire.
Et là, nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit l'an dernier, nous passerons, il y a des... partie de l'histoire américaine que nous passerons rapidement, nous étalerons davantage sur ce qui est le plus marquant culturellement. Alors, on va d'abord, je rappelle quand même que hier, 23 juin, c'était les 10 ans de Brexit, puisqu'on est dans les célébrations. Brexit qui a été très très mal, qui n'a pas encore été d'ailleurs véritablement mis en vigueur, mais enfin c'était les 10 ans de Brexit. Là, nous fêtons... avec quelques jours d'avance, l'anniversaire de l'Amérique. Alors, pour ceci, je pense qu'il faut connaître, quand même ce qui a mené à la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776 à Philadelphie. Alors, avant cela, je voulais demander à mon invité, Eric, vous avez vu, les Américains ont inventé un mot, le semi-quincentennial.
Oui.
Je pense qu'on pourrait traduire ça par le demi-cinquantenaire.
Oui.
Ça donnerait ça. Voilà. Donc le semi quincentennial. C'est pas facile.
Non.
C'est pas facile. Bon, alors, 20 ans avant les événements, plus de 20 ans, il y a eu la guerre de 7 ans, qui nous concerne, nous Français. C'était une guerre entre les Anglais et les Français, les deux monarchies. Au sujet de leur possession en Amérique. Alors, cette guerre de 7 ans, que les Américains appellent la guerre entre la France et la Grande-Bretagne, les French and Indian War. Voilà, eh bien, cette guerre a été, on pourrait dire, peut-être le révélateur de ce qui allait se passer.
Que les gens connaissent surtout par le film Le Dernier des Mohicans. Dont le roman fête cette année ses 200 ans.
Ah, merci Eric.
Bicentenaire, c'est plus facile
alors,
à prononcer.
J'avais pensé à la musique de ce film, justement, oui. Mais bon, je me suis dit, on a tellement à couvrir. Alors, cette guerre de 7 ans, 1756-1763, c'est malheureusement pour l'Empire français, c'est la perte de l'Acadie française et de la Nouvelle-France, donc.
Hein. Oui.
Voilà. Alors, il y a un ami, notre ami Daniel, le docteur Daniel Clément, m'a rappelé qu'aujourd'hui, 24 juin, c'est la fête nationale du Québec, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Voilà, comme ça, nous aurons fêté au Québec sa fête nationale. Et maintenant, nous allons nous occuper de la fête nationale américaine. Alors donc, cette guerre de 7 ans se révèle désastreuse pour la France, puisqu'elle perd de vastes territoires. C'est aussi le début du Canada, puisque beaucoup de colons vont vers le nord et vers l'ouest aussi, le Grand Ouest au nord. Cette guerre cause des dettes considérables à l'Angleterre, et c'est là où ça concerne l'Amérique, c'est parce que comment payer cette dette de guerre? Eh ben, c'est très simple, on va imposer les colons d'Amérique. Alors donc, il faut savoir aussi qu'à la fin de l'Acadie française, des milliers d'Acadiens sont expulsés de leurs terres, alors où ils retournent en Europe, où la plupart du temps ils vont en Louisiane, ça donne les fameux Cajuns.
Qui vient d'Acadie. C'est le même
exactement,
mot
qui vient
prononcé à l'anglaise.
Voilà. 1756, le Québec tombe. On vient de parler du Québec. C'est là où Montcalm, le général Montcalm, meurt.
C'est ça.
Grand français. C'est une époque où j'étais fière de la France. Enfin, je suis fière de notre France monarchique. Et donc, Québec tombe. Et puis, 1760, Montréal capitule. Traité de Paris 1763, met fin à la guerre. Alors, c'est amusant, traité de Paris 1763, notez bien. Parce que 20 ans plus tard, il y aura un autre traité à Paris. Alors, que se passe-t-il pendant ces 20 ans, entre 1763 et 1783? Donc, c'est le début de la domination britannique au Canada et on voit que les colonies américaines, il y a les premières tensions avec la couronne. Enfin, pas la couronne, mais en tout cas avec le Parlement britannique. Alors,
chose que j'aimerais ajouter, oui, c'est une grande différence entre l'Amérique française et l'Amérique britannique, c'est que l'Amérique française reste centrale, dirigée depuis Paris, tandis que les différentes colonies anglaises s'occupent d'eux-mêmes. Ils s'occupent de leurs propres histoires.
Tout à fait, elles sont indépendantes.
Ils ont leurs propres legislatures, leur propre parlement, si on veut.
Legislature, c'est leur propre...
Parlement, si on veut.
Législature,
oui,
carrément.
Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est une grande différence.
Oui, déjà, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, elles sont des provinces, en fait, déjà assez autonomes.
Voilà.
Donc, rattachées à la couronne quand même. Oui. Et les colons américains, je dis bien des colons, c'est très important, ce sont des colons, parce que l'Amérique n'est pas un pays d'immigrants, comme on dit tout le temps. Elle ne l'est devenue qu'après l'infâme Ted Kennedy et sa loi d'immigration de 1965. Mais auparavant, c'était un pays de colons et de pionniers.
Voilà.
Et ça sera... Nous faisons cette émission, chers auditeurs, en deux parties. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur véritablement de l'insurrection, dont nous parlons maintenant, de l'insurrection des 13 colonies, dont Eric Zwan vient de vous dire qu'elles étaient des provinces indépendantes, à l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Alors... rappelons les faits. Il y avait déjà une nation en fait en puissance qui était en l'attente d'un cadre en quelque sorte.
Alors je dirais en 1775 tout le monde c'est des Britanniques, c'est tous les habitants des îles de l'Angleterre, Écosse, des Britanniques. Oui. Tous les colons sont pas, ils commencent à s'appeler américains par défi, mais ce sont encore des citoyens britanniques. Et au début de la Révolution, on parlera d'une guerre civile entre les Britanniques américains et les Britanniques britanniques.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que justement cette Révolution américaine qui n'en est pas une, on va voir, c'est pas une révolution dans le sens de notre révolution. Ces Anglais, ils sont très férus de leur histoire. Et leur histoire, c'est celle des Anglais. Et qui remonte à la Magna Carta, 1215, et la Magna Carta elle-même est issue en fait de pratiques des tribus saxonnes. C'est vers chez vous ça, Eric. Donc c'est très ancien. Quand on dit l'Amérique elle a que 250 ans, non, la nation américaine a effectivement 250 ans, mais la culture politique britannique a été hérité. Et en fait, on viendra à la Constitution tout à l'heure, c'est l'aboutissement.
Et les révolutionnaires parleront aussi d'une autre révolution anglaise, qui est la glorieuse révolution Revolution de 1689,
bien sûr,
où les Britanniques des îles ont voulu prendre leur liberté.
Tout ça fait partie de leur histoire politique. Alors, on arrive maintenant, je vous rappelle brièvement les faits qui nous entraînent de 1765, c'est le début. Le Parlement britannique impose le Stamp Act, c'est-à-dire, j'ai cherché sur Google, ce sont des droits sur toute la paperasserie, sur tous les actes,
les journaux.
Une taxe. Ensuite,
contre la liberté de la presse déjà, parce que tous les journaux, Là, les Anglais sont vraiment bêtes, enfin les Anglais du gouvernement, parce que tous les journaux doivent maintenant se faire payer, doivent se demander un prix plus élevé, et évidemment, ils sont contre.
Laissez-moi simplement, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, dérouler les étapes. Alors, 1765, très important. Le Stamp Act, très très mal vécu, très mal perçu, très mal reçu par les colons. Tellement mal que John Dickinson, entre en résistance. John Dickinson, c'est un fermier et lawyer. Ils sont tous lawyers, les Américains. Ils sont tous passés par une école de droit d'une manière ou d'une autre. Alors, il écrit une lettre qui est restée célèbre, lettre d'un fermier en Amérique. Et donc, c'est le début de l'insurrection, petit à petit. Alors après, sont imposés également, bien avant le thé, sont imposés, il y a toute une série de... qu'on appelle les coercive acts, c'est-à-dire les actes, les lois punitives en français. Et les Américains, les colons américains, eux, les appellent the intolerable acts, c'est-à-dire les actes intolérables. Et pourquoi ils sont intolérables ? Alors, ils ne comprennent pas, évidemment, pourquoi eux devraient payer la dette de la guerre, avec toutes ces taxes qui se multiplient. Surtout, c'est sur le verre, c'est sur le papier, c'est sur le thé. Et donc, on arrive à 1773, la fameuse partie de thé de Boston. C'était en fait une guerre, parce que le seul rapport qui restait véritablement entre la couronne et les colonies, c'était des rapports marchands. Pour le reste, Eric l'a très bien dit, ils étaient déjà indépendants. Donc, c'était des rapports marchands. Alors, ils se sont dit, mais de quel droit est-ce qu'ils viennent nous ? Et en plus, il y avait quelque chose qui déplaisait fortement aux colons, c'est que la couronne se permettait de faire héberger des soldats gratuitement là où elle voulait. Donc ça, c'était très mal vécu, très mal perçu aussi. Alors, il y a eu des échauffourées, il y a eu le Boston de Massacre, Boston Massacre, en 1770. Premières échauffourées avec les British Troops. Eric, on va y parler un petit mot simplement. Quand est-ce que les milices se sont formées ? Est-ce que c'est vers ces années-là ?
Depuis le début ? Ils n'avaient pas d'aide de la couronne britannique ni de l'armée. Et donc, depuis le début, tout le monde devait porter un fusil chez soi.
D'accord. Alors, on arrive donc, John Dickinson, on en reparlera, puisque John Dickinson, il va signer pratiquement tous les papiers importants, la déclaration, et je crois qu'il a un rôle important aussi dans l'élaboration plus tard de la Constitution américaine. Donc, un Adams, qui n'est pas le président Henry Adams, mais...
John Samuel.
C'est son cousin ou son frère ?
C'est son cousin.
Lui, c'est véritablement un va-t-en-guerre. Et alors, il est un des premiers à prêcher l'insurrection. Vous êtes d'accord, Eric ? Voilà, il est un des premiers. Il attaque donc cette politique de taxation indue. Et il y a aussi une organisation qui se forme, qui s'appelle les Fils de la Liberté. Mmh. On commence à parler de liberté, d'indépendance. Enfin, que quelques-uns hein, au début, voilà. Et donc ça, c'est les années 60-70. On arrive à 1775. Il y a la fameuse ballade. Alors, Paul Revere's Midnight Ride, dont Longfellow... plus d'un demi-siècle plus tard, fera un superbe poème. Alors...
Je peux interrompre
oui,
ou non ?
Oui, dites qui est alors, Paul Revere.
Il faut d'abord dire qu'après que les Américains ou les Britanniques d'Amérique, comme vous voulez, aient jeté le thé à la mer, il s'agit de moins de 100 personnes et qui s'étaient habillées en indien pour montrer qu'ils étaient Américains, pas Britanniques. La couronne a fermé le port de Boston, qui est un des plus grands ports du monde, en fait. Et ils ont dit, tous les habitants de la ville, les centaines et les milliers de gens, doivent repayer ce que 70 personnes ont détruit, et le thé en le jettant à la mer, dans le port de Boston. Et puis, les gens commencent donc à organiser les milices. Et c'est là que, à ce moment-là, c'est très important parce que une des raisons majeures, c'est le gun control, c'est le contrôle des armes. Ils envoient des brigades vers les villes de Concord. Et pour prendre les armes qui sont enfouies et qui sont mises là-bas. Mmh. Et pour arrêter aussi John Adams. Et c'est là que
John ou Samuel?
C'est John, à ce moment-là.
Oui, John Adams.
John Adams. Et c'est là que part le fameux cavalier qui va leur dire « The British are coming » et qu'il faut organiser les milices
Paul
qui
s'arment,
prennent leurs armes.
Paul Revere est un héros national. Enfin, je ne sais plus maintenant si les petits-enfants américains apprennent ça, mais c'était dans les classes primaires. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, ils n'apprennent plus rien du tout.
Avec la gauche au pouvoir.
C'est une très belle histoire.
Oui.
Paul Revere passe toute la nuit à aller prévenir, attention, les Britanniques vont vous attaquer. C'est magnifique. Alors, on arrive maintenant au 18 avril 1775, donc la balade, la nuit de Paul Revere. Et alors, presque tous les colons américains sont très influencés par tout ce qui s'est passé. Néanmoins, ils essayent quand même, le 8 juillet 1775, une dernière tentative de réconciliation avec la pétition de la branche d'Olivier. Oui. Et là, les mêmes à peu près signent. Et il y a un certain John Hancock qui a une... C'est un petit détail, mais il est pareil. Sa signature est dans tous les textes constitutionnels. Et là, il signe aussi parce qu'il voulait que le roi George III puisse voir tout de suite sa signature sans ses besicles. Donc, c'est un détail amusant. Et alors, il croyait encore, certains colons, que le roi n'avait rien à voir dans tout ça. Mmh. Or là, leur pétition ayant été rejetée, ils comprennent, c'est capital, ils comprennent qu'en fait, George III soutenait complètement son parlement et soutenait complètement cette politique de taxation. Oui. Donc là, ça va très, 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 très mal et ça donne la fameuse déclaration d'indépendance.
Une année plus tard.
Une année plus tard, oui, parce qu'il faut le temps de s'organiser. Mais enfin,
est-ce que je ne vais pas interrompre?
Attendez, laissez-moi juste finir ce que je disais,
d'accord,
parce qu'autrement, je il faut le temps, effectivement, qu'il y ait la réaction du roi. Or, la pétition, elle est du 8 juillet 1775. À l'époque, on ne voyage pas trop vite, il n'y a pas d'Internet. Donc, il faut, quelques mois plus tard, ils comprennent que là, il n'y a rien à espérer de George III. Et alors là, du coup, ça va très, très mal. Et ils commencent à penser à tout ce qu'il faut mettre dans une déclaration d'indépendance.
Ce qui est important... C'est que quand il y a la révolte à Massachusetts, tant les Anglais d'Amérique, tant les Anglais de Grande-Bretagne croient que ça va pas s'étendre. Ils croient que toutes ces colonies s'occupent d'eux-mêmes et que personne va venir à la rescousse de Massachusetts. Or, il y a les autres États qui sont encore des colonies envoient beaucoup envoient des renforts, leurs propres milices.
Tout à fait. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, ces colonies, c'était des petits États indépendants, en quelque sorte. Et c'est Paul Thompson qui m'a fait remarquer, oui, mais ils n'étaient pas du tout homogènes, ils étaient très différents les uns des autres. Sauf que ces événements les ont rapprochés et ils se sont découverts quelque chose en commun. Ils ont découvert leur américanité et donc ils se sont organisés. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est quand même pas un détail, c'est que le 14 juin 1775, qu'est-ce qui a été créé? On a fêté son anniversaire l'an dernier. Eh bien, l'armée américaine. Mmh. Donc, Eric, ma question, et je vous ai remis un programme, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde tout le temps la pendule, il faut arriver à tout dire.
Oui.
Et donc, très rapidement, parce qu'on n'est pas encore aux batailles, et là je vous interrogerai plus, comment se fait-il qu'il y ait eu deux batailles, Lexington et Concord, en 75, avant même la déclaration? Expliquez-nous ça.
C'est l'armée britannique qui ne veut pas que les révoltés aient des armes, et donc, tout comme on parle de gun control aujourd'hui, ils sont allés pour prendre leurs armes et leurs fusils et tout cela, et pour que les Américains ne soient pas armés.
Alors, est-ce qu'on peut inclure ces deux batailles qui sont de 1775, est-ce qu'on peut les inclure dans la guerre d'indépendance?
Oui, tout à fait, c'est le début.
Bon.
C'est the shot heard around the world, c'est le coup de feu qu'on a entendu dans le monde entier.
Très, très bien.
Est-ce que je peux dire deux choses sur
Tout rapidement.
OK. Il faut comprendre que les Américains, ou les Anglais, Britanniques-Américains, se voient comme le Commonwealth aujourd'hui. Ils sont tous sous le roi George III, comme aujourd'hui on est tous sous le Commonwealth, c'est sous le roi Charles III. Or, Londres doit s'occuper des Anglais en Angleterre. N'a pas à s'occuper des Anglais en Maryland ou en Géorgie ou en Caroline du Sud. Tout comme les Anglais de Caroline du Sud n'ont pas à se mêler de faire des lois pour la Géorgie ou pour l'Angleterre. Et c'est ça leur vue de base. Maintenant, on comprend que l'Angleterre, ok, c'est un empire. Alors, il faut qu'il y ait des... Tout comme le Parlement anglais à Londres a des parlementaires qui viennent de Birmingham, de Leeds et des villes de l'Écosse, il faut qu'ils aient aussi des gens de Boston, des représentants de Boston, de Charlestown et de New York. Et c'est ça qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que la première phrase de la Révolution, c'est pas de taxation sans représentation.
Sans représentation. Vous avez tout à fait raison, j'avais oublié ce qui n'est pas un détail, qui est en fait capital, c'est que cette politique de taxation, elle était d'autant plus malvenue qu'effectivement, il n'y avait pas de représentant américain au Parlement.
Exactement. Voilà.
Donc, vous avez tout à fait raison de l'avoir rappelé, Eric. Alors, on en arrive maintenant à la fameuse déclaration d'indépendance. Alors, elle a été rédigée, nous dit-on, par Jefferson. On fera un tout petit portrait de Jefferson après. Hein. Elle a été rédigée par Jefferson, assurément. Mais enfin, il faut savoir quand même que le père fondateur Franklin... Non.
George Washington.
Non, Franklin, vous parlerez de Washington après. Ah, Franklin.
Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin, voilà ça. Parce qu'il y a d'autres. Benjamin Franklin a corrigé quand même le texte de Jefferson.
Oui.
Quelques autres aussi, mais c'est surtout Benjamin Franklin. Il avait une très bonne idée. Alors, c'est tellement beau dans cette déclaration. On dit que c'est le préambule. En fait, il y a un premier paragraphe qu'on cite jamais. On cite toujours le deuxième. Nous tenons ces vérités pour. Alors, comment on dit en français ? Allant d'elle-même.
Évident en soi.
Parce qu'en anglais, c'est self-evident. Oui. Et ça, c'est pas Jefferson. Là, c'est Benjamin Franklin a corrigé Jefferson. Oui. Il a raté, il a mis ça à la place. Et ça sonne très, 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 très bien, il faut le reconnaître.
Alors, une fois écrite, la personne qui l'a traduit en français, c'est aussi Jefferson, qui maîtrisait parfaitement le français.
Oui. C'est vrai. C'est vrai.
Qui est devenu après ambassadeur
d'accord.
À Paris.
Alors, on va parler des débuts.
Ou à Versailles.
On va parler des débuts. Alors, aussitôt, alors ça, c'était le premier. On en était au premier ou au deuxième congrès continental ?
Là, on est le deuxième congrès. Voilà. Déclare l'indépendance.
En fait.
1776.
Je les ai les dates des congrès quelque part. Alors, les dates des congrès. Attendez que je vous les donne. Les dates des congrès. Le premier congrès, il fait quoi ? Il est du 5 septembre au 26 octobre 1774-1775. Il n'est pas long. C'est tout ce que nous venons de dire, jusqu'à la pétition à Georges III. Alors, le deuxième congrès, effectivement, lui commence le 10 mai 1775 et il va quand même jusqu'au 1er mars 1781. D'accord ?
Okay. OK.
Donc, c'est... Le gouvernement de la jeune Amérique, qui vient de se proclamer indépendante, c'est le premier congrès continental jusque-là. Pas de président, etc. Et on verra en 1781, après la guerre, ce qu'ils feront. Alors maintenant, nous allons parler de la guerre elle-même, des mouvements de guerre. La part des Français, c'est pas négligeable, n'est-ce pas ? Ça, c'est moi qui en parlerai. Alors, les batailles. Ou alors, est-ce qu'on parle quand même... Non, on parle d'abord de la déclaration elle-même. Alors, je disais, il y a le fameux préambule. Et après le préambule, il y a pratiquement 20 chefs d'accusation contre le roi Georges III.
Oui.
Il a fait ceci, il a fait cela. Il a décidé que, en dépit de la constitution de l'Empire britannique, il a fait ceci à nous.
Oui.
Voilà. C'est plus que des doléances, ce sont vraiment des chefs d'accusation.
Mmh.
Et pour terminer, la conclusion de la déclaration d'indépendance, c'est en conséquence, nous, colons des 13 colonies américaines, déclarons notre indépendance. Et le texte est magnifique. Et ce n'est pas très long. Et je vous engage vivement, chers auditeurs, à le trouver sur l'Internet. Vous le trouverez forcément. Je signale aussi que quand on va à Washington, moi, il y a un passage obligé qui est la Fondation Héritage. Héritage vous remet gracieusement un petit exemplaire de la Constitution. Et c'est plus qu'à la Constitution. Il y a la Constitution, il y a la Déclaration d'indépendance, il y a tous les textes fondateurs. C'est pas plus gros qu'un passeport. Et c'est véritablement précieux. Je ne les ai pas apportés là, j'ai trop peur de les perdre. Alors, dans la déclaration, qui n'est pas la Constitution, hein, ce n'est pas la même chose, il y a effectivement cette idée de liberté, Et alors, est-ce qu'on parle de Jefferson maintenant et, parce qu'après, on va parler de Washington et des guerres, de la guerre d'indépendance. Alors, Jefferson, un petit mot sur Jefferson. Moi, je vais dire ce que j'en pense et après, ce sera Eric. Alors, Jefferson, c'est pas mon père fondateur préféré. Pourquoi ? Il était très brillant, il n'y a pas de doute. Hein, un homme extrêmement brillant, comme vous l'avez dit, francophile en même temps. Ouais. Et puis, francophone. Et il a fait découvrir aux Américains un vin du Sud-Ouest, le Merlot français, ouais, dont il a rapporté des plans chez lui. Monticello, sa maison de Virginie, je ne l'ai jamais visitée. Vous l'avez visitée ?
Oh, oui.
Moi pas. Eh bien, elle est dans le style paladien, avec une coupole. Elle lui a coûté une fortune, oui, et elle l'a endettée.
C'est au sommet d'une montagne, voilà, enfin d'une petite montagne.
Il a été très brillant, donc il avait une très bonne plume. Pas un grand orateur, mais excellente plume. Donc il a rédigé la Constitution, même si certains l'ont un peu amendée et corrigée.
Ainsi que la Constitution de l'État de Virginie, parce que chacun des 13 États avait leur propre Constitution.
Il est partout, sa signature est sur tous les papiers, tous les textes fondateurs, et il a été président des États-Unis après avoir été ambassadeur de la Jeune Amérique en France. On est bien d'accord. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas trop ? Eh bien, c'est parce que la Révolution américaine n'a rien à voir avec la Révolution française. Les Américains ont écouté les bonnes lumières. Ils ont écouté Burke, ils ont écouté les penseurs écossais, ils
Montesquieu.
Ont Montesquieu, notre cher Montesquieu, bien entendu, et dont la Constitution s'inspire beaucoup. Ça n'avait rien. Ce qui était révolutionnaire, c'était de se séparer du roi, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, là, j'anticipe avec la Constitution, plus de 10 ans plus tard, de déclarer que c'est nous, le peuple, qui sommes souverains. Ça, c'est révolutionnaire comme idée. Mais c'est au bout, comme je l'ai dit, de 13 siècles de démocratie, en fait. Hein. Et donc, République, pourquoi ? Alors, Jefferson avait raison de ne pas vouloir de démocratie, parce qu'en démocratie, vous pouvez, si 51% décident qu'ils doivent vous prendre tous vos biens, vous n'avez rien à dire. Et tous vos droits, bon. Tandis qu'ils ont tous œuvré pour une République fédérale, une république démocratique, mais une république fédérale, non, une république, qui n'est pas pareille. Voilà. Et sur le modèle, Jefferson était très, très, très... J'aime tout jusque-là de Jefferson. Il était très impressionné, je le suis aussi, par la république romaine, la république vertueuse. Washington lui-même sera appelé le Cincinnatus américain. C'est vous qui allez en parler, Eric, tout à l'heure. J'en termine avec le petit mot sur Jefferson. Jefferson, voilà où je ne l'aime plus, c'est qu'il a pris le parti des révolutionnaires français. Et la jeune Amérique, ça c'est plus tard, mais c'est pour ne pas avoir à revenir à Jefferson. Quand il y a eu des brouilles sur les problèmes marchands de navigation avec la Convention, Jefferson voulait rendre de l'argent aux Français. Ils osaient, les révolutionnaires français osaient demander une dette à l'Amérique. Eh bien, Jefferson aurait été d'accord, parce qu'il n'a pas protesté non plus quand ils ont tué le roi et la reine. Et ils n'ont pas protesté non plus contre le traitement de l'enfant martyr au temple. Alors que d'autres Américains comme Adams, Hamilton, disaient non, on ne doit rien à ces gens-là. C'est le roi Louis XVI qui nous a aidés. Ce n'est pas la France qui nous a aidés. Cette France-là, ce n'est pas celle qui nous a aidés. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur Jefferson.
Il y avait des Américains à Paris pendant la Révolution, pendant Robespierre et tout ça. Et ils étaient consternés. Et à un moment donné, un des grands héros, le grand héros des deux mondes, Lafayette, Robespierre voulait le faire décapiter. Et comme avec tous les autres. Et ce sont les Américains qui, en partie, qui étaient là-bas, qui ont dit non, 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 arrêtez. Vous exagérez, là. Et là, Robespierre, c'est quand même... OK, on va l'exiler.
Il aura coupé quelques autres têtes pour se calmer. Alors, je crois que, bon, sur la déclaration d'indépendance, je vous engage, chers auditeurs, à la lire. Il faudrait maintenant qu'on parle quand même de l'engagement des Français dans l'armée et les grandes batailles. Alors, Eric, les grandes batailles, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Eh bien, deux ou trois mois après l'indépendance, c'est la bataille la plus grande, la plus sanglante de toute la Révolution. Et c'est la bataille de New York que Washington perd. Et c'est seulement grâce à
Le brouillard.
Le brouillard, que ces hommes réussissent à,
Mais vous ne parlez pas du brouillard de la guerre dont on parle
non,
maintenant.
Non, je parle d'un vrai brouillard. Que les gens, évidemment, ils disent que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais c'était une grande perte pour Washington. Et après cela, il a compris qu'il ne devait plus essayer de s'attaquer aux Anglais ou sur le champ de bataille, mais il fallait que l'armée reste intacte.
Alors, j'ai des questions pour vous. Alors, les grandes batailles, je les ai là, année par année, donc 1775, Lexington et Concord, vous avez dit qu'on les comprenait dans la... Bunker Hill.
Oui, Bunker Hill.
Alors, le théâtre des opérations dans toutes ces guerres, on croit généralement que c'est en Virginie mais, ou en Nouvelle-Angleterre.
Non,
mais...
c'est surtout la Nouvelle-Angleterre. Et ce que les deux côtés veulent, c'est le Hudson River. C'est la rivière Hudson qui est l'autoroute pour l'intérieur de l'Amérique.
Ça, on y reviendra avec le canal Erie, plus tard. Oui. Alors donc, en 1776, de grandes batailles aussi. Je cherche là où sont les Français. Les Français, il paraît qu'il y avait... Je crois qu'il y avait des Français déjà à Lexington.
Non, à Lexington, pas trop, non.
Pas trop
pour... Mais Washington vient de subir sa défaite à New York, dans la ville de New York. Et quelques mois après, il a fait une attaque surprise en traversant la rivière remplie de glace et en s'attaquant à Trenton, New Jersey. Il remporte une énorme victoire sur les troupes allemandes.
Quelle année ?
Ça, c'est 1776, les derniers jours de 1776. Quelques mois après, quelques jours après, il a une autre grande victoire. Et trois mois après, plusieurs mois après, c'est Saratoga. C'est une telle victoire que c'est là que la France décide, que le roi Louis XVI décide d'envoyer des troupes.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut bien distinguer Lafayette, qui était volontaire et qui, de toute façon, lui, se portait combattant auprès des insurgés américains.
Dès le début.
Voilà. Et c'est pas lui qui a prêché la cause auprès de Louis XVI. C'est un autre gentilhomme français.
C'est Beaumarchais qui a entendu la victoire de Saratoga. Mmh. Il a couru vers les bâtiments du gouvernement et tellement vite qu'il a eu un accident.
Alors, il y a une bataille dont vous ne nous parlez pas, Eric, qui
pas
était
encore.
Le 11 septembre, Brandywine,
oui.
Qui était juste avant le Saratoga.
Oui, ce n'était pas une grande victoire non plus.
Ben non.
Mais cette fois-ci, Washington garde son armée intacte.
Mais il y avait une très belle chanson sur Brandywine que je n'ai pas pu vous retrouver. En revanche, on va faire une toute petite pause parce que je vois qu'il y a des messages qui sont tapés. Nous allons écouter le chant. Un chant qui était un chant anglais pour se moquer des Américains dans les années de la guerre, de la fameuse guerre de 7 ans.
Oui.
Et puis ce chant qui se moquait des Américains a été repris par les insurgés américains pour se moquer à leur tour des Anglais. Et c'était un chant de ralliement et nous allons l'écouter si la technique est prête.
Avec le mot décrocher, c'est décrocher, ça veut dire enlever les crocs du loup, puisque la moquerie ne servait plus à rien, puisqu'ils avaient pris la chanson pour eux.
Upon a slap and stallion, giving orders to his men.
I guess there was a million.
keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy.
Were made of leather. They knocked a pole with little sticks
to call the men together. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. And there they had a swapping gun as big as a log of maple on a mighty little cart, a load for father's cattle. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. And every time they fired it off, it took a horn of powder.
It made a noise like father's gun,
only a nation louder. Thank you, we'll keep it up, thank you, handy. Find the music and the step, and with the girls be handy.
Stopped as I remember, nor turned about till I got home.
Locked up in mother's chamber. Yankee Doodle, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs, vous écoutez le Libre Journal du Nouveau Monde dirigé par Evelyne Josselin qui reçoit aujourd'hui Monsieur Eric Swann. Le thème de l'émission... de l'insurrection des 13 colonies à l'indépendance et les débuts de la jeune Amérique. Je vous signale, chers auditeurs, que cette émission sera rediffusée ce soir ou cette nuit à 0h, donc à minuit, et jeudi 9 juillet 2026 à 14h.
9 juillet.
Un message est arrivé de Gérard. Bonjour madame, bonjour monsieur. Les indépendantistes sont alliés aux Indiens dans la guerre d'indépendance contre les Anglais. Peut-on avoir des précisions à ce sujet ?
En fait, on ne voit pas trop d'Indiens dans la Révolution américaine, mais il y a beaucoup qui sont pour les Anglais et autant pour les Américains. Et par exemple, la tribu la plus sanglante du Nord-Est, ce sont les Iroquois. Ils sont composés de 6 tribus. 4 sur 6 sont pour les Britanniques et 2 sont pour les Américains. Et leur pouvoir, après la guerre, disparaît puisque la plupart étaient pour le perdant de la guerre.
Ah oui, d'accord. Merci.
Merci Eric. Alors, je sais que vous avez lu un livre de 1000 pages sur Washington et vous voulez nous parler, mais moi je veux aussi parler de Lafayette. Alors,
d'accord.
Je vous laisse la parole pour... C'est vrai que Washington est la figure centrale de cette guerre d'indépendance.
Et plus qu'on le croit, au début de la guerre, il n'y a pas de symbole pour le pays. Il n'y a pas de drapeau pour le pays. Il y en a tout plein. Le plus connu, à part c'est un drapeau jaune avec un serpent de sonnette dessus qui dit « Ne nous marchez pas dessus ».
Le Gadsden Fly.
Voilà. Don't tread on us.
Qui a été repris par les gens du Tea Party
tout
il y a
fait.
Une quinzaine d'années.
Oui, oui. Et a été repris par beaucoup de gens au cours de l'histoire. Mais donc, il n'y a pas de drapeau. Il n'y a pas de symbole. La seule chose qui importe, c'est l'armée américaine et son général Washington, qui est adulé dès le début.
Qui l'a fait général?
C'est John Adams, juste après les batailles de Concord et Lexington.
C'est le deuxième congrès.
Ouais, le premier congrès,
le premier
1775,
congrès. Oui.
Et il y a qu'une personne, il y a tous les États, toutes les colonies se sont réunies à Philadelphie pour en parler. Et il y a une seule personne qui est en uniforme, c'est le vétéran de la guerre de 7 ans. Et donc John Adams dit, je présente, il est du Massachusetts, donc de Boston, et il dit. C'est aussi pour que les Virginiens, l'État le plus peuplé, la colonie la plus peuplée se joignent à eux, je propose George Washington. Et là, George Washington se lève et sort de la pièce pour laisser les gens débattre et voter.
C'est pour ça que son nom ne figure pas sur les parmi les signataires de la Déclaration d'indépendance. Voilà. Étant donné qu'il était neutre, il se portait neutre.
Voilà.
Donc, alors ça, c'est les débuts de Washington comme général et commandant en chef des armées de l'armée américaine.
Oui.
Il y avait aussi une petite flotte navale, mais très petite, ils avaient quelques vaisseaux, pas plus.
Oui.
Et c'est là où les Français sont très importants, parce qu'eux, ils avaient une flotte très importante.
Alors, une des raisons, on a toujours dit que l'armée française était la meilleure du continent, ce qui est vrai. Malheureusement pour eux, la meilleure flotte du continent européen, c'était la flotte anglaise. Et donc, puisqu'ils ne pouvaient pas envoyer trop de troupes pour la guerre de 7 ans sur le nouveau continent, c'est une des raisons qu'ils ont perdu. Et donc, le roi Louis XV, à l'époque, a dit qu'il faut construire une flotte forte. Et c'est ça qu'on va voir pendant la Révolution américaine, quand l'amiral Destin détruit la flotte, une flotte britannique. Enfin, elle ne détruit pas, mais elle cause tellement de pertes qu'ils sont obligés de retourner dans le port de New York.
En fait, la participation française a été importante sur le terrain. Les combattants, c'était donc les soldats américains de l'armée américaine. Quelle différence vous faites? Et puis donc, quand même quelques contingents français qui se sont battus, en plus de Lafayette, qui a pratiquement fait toutes les guerres.
Oui.
Il y en a quand même qui se sont battus. Mais la grosse participation française, c'est quand même sur mer. Et notamment avec la dernière bataille décisive remportée par l'amiral de Grasse dans la baie de Chesapeake.
Et surtout, les armes. Par contre, l'armée française apprend beaucoup de choses aux Américains qui connaissent pas encore toutes les règles de la guerre.
Il n'y avait pas de d'abord, il n'y a pas eu de bataille en rangée, très peu de bataille en ligne.
Non, mais ils ont fait le siège de Yorktown.
Oui,
et c'est là qu'on voit ce qu'on voit aussi dans le film Le Dernier des Mohicans, les Français qui mettent les tranchées de plus en plus et qui approchent de plus en plus des forces anglaises. Cette fois-ci, assistée par les Américains.
Alors, puisque vous vouliez nous parler de Washington, parlons de Washington. Le caractère de l'homme, très vertueux.
Oui, très, très vertueux et très, très indépendant. Et très fâché si on lui marche sur les pieds.
Typiquement américain.
Une chose qui est marrante, qu'on ne sait pas trop des Américains en général, et surtout pas de cet âge-là, c'est qu'ils buvaient beaucoup. Et que le plus grand distilleur de whisky aux États-Unis, c'était Mount Vernon. Et George Washington, c'était la maison de George Washington qui faisait 41 000 litres de whisky par an.
Ah oui.
Tandis que le bon vivant qui est Benjamin Franklin a dit le vin, ce qui est dans le vin, ce qu'on retrouve après le vin, c'est la sagesse. Ce qu'on retrouve après la bière, c'est la liberté. Ce qu'on retrouve après l'eau, c'est les maladies.
C'est pas inexact.
C'est pas
tout
mal.
Ce que vous avez à nous dire sur Washington?
J'ai plein de choses.
Je vous donnais quelques minutes avant qu'on poursuive.
D'accord. Alors, Washington, je parle aussi que quand il sera président plus tard, il a beaucoup de choses en commun avec Trump. Il dit que c'est le commerce qui doit rédiger, qui doit régler,
rentrer des richesses.
Voilà, rentrer des richesses et pour que tous les peuples, aussi les peuples des États deviennent plus, se sentent plus fraternels, il faut le commerce. C'est ça qui compte le plus. C'est tout à fait ça. Aussi, pendant la guerre d'indépendance, les Américains sous Washington commencent à, quand ils tirent, c'est nouveau, tout à fait nouveau. On retrouve ça dans l'Iran cette année. Ils tirent sur les officiers, sur les généraux. Jamais on avait fait ça avant. Il fallait juste abattre autant de troufions que possible, mais pas s'en prendre aux officiers. Et là, c'est ici qu'ils tirent sur beaucoup d'officiers. Et évidemment, quand leur commandement est décimé, les soldats ne savent plus quoi faire.
D'accord. La personnalité de Washington, on la retrouve plus tard, quand il a été président, ce qui lui vaut son surnom de Sinatus.
Oui, Cincinnatus.
Cincinnatus. Alors, américain, c'est parce qu'il part en disant, voilà, j'ai fait deux mandats, ça suffit,
c'est déjà, non,
je
c'est,
retourne à ma vie.
C'est pas seulement ça, c'est après avoir gagné la guerre d'indépendance, beaucoup de gens ne savent pas ce qui va se passer, est-ce que ça va devenir... Qu'est-ce que c'est une république? Est-ce qu'il va prendre le pouvoir? Et là, il dit non, je retourne à Mount Vernon, je retourne à ma vie d'agriculteur. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce qui va se passer après la guerre? Alors après la guerre, eh bien, on est toujours avec le deuxième congrès, le deuxième congrès continental, où 1781, signature.
Voilà.
La guerre se termine donc.
La paix est signée deux ans après.
Deux ans après. En 1781. Voilà. Oui, mais la guerre se termine en 1781, on
oui,
est bien d'accord.
C'est la dernière bataille.
Voilà, et la guerre est signée deux ans après, à Paris.
La paix est signée à Paris.
En fait, à Versailles.
Voilà.
En présence de Louis XVI.
Je ne sais pas s'il était là, mais je présume que oui.
En tout cas, j'ai entendu à la télévision récemment des gens dire « Ben oui, mais vous vous rendez compte, c'est à cause de l'engagement français en Amérique, la France était ruinée ». Ah non, la France, c'est pas ce qu'a causé la Révolution en 1789. Alors, certes, la France, les finances étaient au plus bas, mais pour beaucoup d'autres raisons aussi. Mmh. Pas que celle-ci, c'est pas la cause de la Révolution. La cause de la Révolution, c'est franchement le déchaînement révolutionnaire français qui, moi, me fait encore honte aujourd'hui.
Et une chose qu'on ne mentionne jamais, c'est qu'il y avait eu la disette.
Oui.
On dit ça
une disette,
pendant l'été
oui.
de 1789.
Il y a eu une convergence de facteurs, voilà, effectivement. Et puis, il y avait quand même une poussée révolutionnaire chez nous, très différente de celle des États-Unis. C'était véritablement les premiers marxistes.
Mais la noblesse, la noblesse était bien aussi à la source de la Révolution française.
Oui,
c'était une véritable conspiration.
Une partie, oui, tout à fait. À propos de la noblesse française, il faut reconnaître que tous les commandements militaires en Amérique étaient tenus par des gentilshommes. La plupart étaient des aristocrates.
Tout à fait.
Des aristocrates.
Ce qui est aussi
étonnant, éclairés.
Et très jeune.
Oui,
Jefferson,
très jeune,
quand il écrit sa déclaration, il a 33 ans.
Oui, oui, oui.
Washington, quand il devient commandant en chef, quand il devient général, il a 44 ans.
Oui.
Beaucoup de gens très, très jeunes. Évidemment, le plus jeune d'entre tous, c'est Lafayette, qui arrive ici à 19 ans.
Oui.
Il part contre les vœux du gouvernement de Louis XVI qui veulent l'arrêter dans le port français d'où il part pour l'Amérique. Et il part très vite pour ne pas avoir à rester derrière les barreaux d'une prison française.
Alors après la guerre, le Congrès continental signe les articles de la Fédération.
Confédération.
Alors, ces articles de la Confédération, ils sont censés, en fait, servir de constitution, en quelque sorte. Mais, en même temps, ce congrès se transforme de facto en assemblée constituante. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'élaborer ce qui sera la constitution américaine.
Oui.
Et là, ça demande plusieurs années. J'ai noté également une chose importante, c'est qu'en 1785, donc deux ans après la signature du traité de Paris, il n'y a pas de président, mais il y a quand même un secrétaire d'État aux finances, qui est Alexander Hamilton, on le retrouvera avec la bataille des fédéralistes, qui, par deux lois, le Coinage Act et the Mint Act, la loi sur la monnaie, crée le dollar américain.
Qui a 30 ans.
Vous avez parlé
Lui n'a que 30 ans.
Oui, mais c'est ce qu'il a fait, c'est encore plus important.
Oui.
Il décide que le dollar américain sera la monnaie de la Nouvelle-Amérique. Alors, après, on arrive à 1787. Les articles de la Constitution, cette fois-ci, sont présentés et commence le premier congrès fédéral.
Alors, la Confédération n'était pas très... Elle n'avait pas beaucoup de pouvoir. Et donc, c'est Washington et d'autres pères fondateurs qui décident de faire cette constitution qui aura plus de pouvoir.
Alors, cette constitution, elle est ratifiée en 1789 par 9 colonies seulement sur 13.
Oui, oui.
Parce qu'il y en a 4 qui... Alors, c'est un peu le début de la bataille entre les fédéralistes et antifédéralistes.
Voilà.
Et ça, on va y revenir un petit peu après. Ce qui est important, c'est de savoir que cette constitution, combien elle a d'articles ?
Sept articles.
Et en 1791, alors ceux qui n'étaient pas contents, qui n'avaient pas signé, ils obtiennent gain de cause puisqu'ils obtiennent que soit ajouté à la constitution le Bill of Rights, c'est-à-dire la charte des droits.
Ouais.
Pareil, ça c'est très ancien, ça a plusieurs siècles. Et donc la charte des droits qui, elle, a 10 premiers, c'est-à-dire les amendements, 10 premiers amendements.
Dont voilà. Les 2 premiers sont les plus connus.
Oui, donc le premier c'est l'expression religion, et deuxième les armes,
voilà.
Port d'armes. Très très bien. Et les Américains ont tout à fait raison de ne pas céder leurs armes. Parce qu'autrement, ils seraient impuissants comme l'air. Donc, c'est très, très bien. Et ça, maintenant, on va pouvoir arriver au début de la jeune Amérique. Alors, parlez-nous, Eric. La pendule passe très vite. Parlez-nous de cette bataille qui continue encore aujourd'hui, pratiquement, entre les fédéralistes et antifédéralistes.
Oui. Alors, c'est tout simplement, certains veulent plus de pouvoir centralisateur que les autres.
Oui, mais il y a un problème sur l'appellation.
Voilà. Logiquement, ça devrait être le contraire. Les fédéralistes, c'est eux qui veulent plus de pouvoir aux États. Et ceux qui sont contre, c'est les antifédéralistes.
D'où est-ce que ça vient, ce quiproquo ? Ça devrait être le contraire.
Tout cela, c'est tout au long de l'histoire américaine, vous avez des propagandistes qui mettent le mot inverse pour se donner une bonne conscience. Par exemple, en Amérique, liberals, ça veut dire socialistes. Hein? Liberals, libéral, logiquement, ça doit être quelqu'un qui est pour la liberté. Non, c'est le seul nom que se donnent les démocrates.
Mais à l'époque, ça n'existait pas.
Mais je parle d'une version moderne.
Alors, parlons un petit peu maintenant de la Constitution. Benjamin Franklin aurait dit, bon, c'est une république, si vous arrivez à la garder.
Tout à fait.
Et pourquoi cela ? Parce que c'est la convention, en fait, c'est une convention qui décide de cette république. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Eric, de la Constitution américaine, l'époque, le climat ?
Je dirais, chaque phrase de la Constitution dit que le citoyen est un homme libre. Voilà, c'est la base. C'est la base. Tout cela, ce sont des... chaque phrase dit que le citoyen a le droit d'avoir des droits et des libertés.
Et les droits, il les a déjà, qui sont donnés par Dieu. God-given rights.
Exactement, oui.
Voilà, donc des droits donnés par Dieu, pas par le gouvernement.
Non.
Et ça, c'est clé, parce qu'aujourd'hui, la gauche américaine ne reconnaît que les droits qui sont donnés par le gouvernement, c'est-à-dire des faux droits.
Comme international,
oui. Voilà, exactement. Donc, en septembre, le 17 septembre 1787, c'est la naissance de la Constitution et elle sera ratifiée 2 années plus tard, en 1789.
Alors,
la lire aussi, elle n'est pas très longue.
Il faut juste dire qu'elle est ratifiée un à un par chacun des États.
Oui.
Et c'est vrai qu'au début, il n'y en a que 9 et après, il y a les autres qui disent on ne peut pas rester en dehors.
C'est justement la charte des droits qui les rallie.
Oui, tout à fait.
Les rallie. Alors, donc, cette bataille entre... Alors, quels sont les grands noms parmi les fédéralistes et les antifédéralistes ?
Washington et John Adams, qui sont le premier et le second président du pays, ce sont des fédéralistes, ils sont pour le pouvoir central. Et le troisième, Jefferson, ce sera une contre-révolution. Lui, il est plutôt pour les droits aux États.
Droits aux États. Alors, c'est très important parce que un demi-siècle plus tard, la guerre qu'on appelle de sécession commencera justement par des disputes sur ces droits.
Voilà.
Le droit de quitter l'Union. Alors, vous n'avez pas dit, donc c'est moi qui vais le dire à votre place. Je pensais que vous auriez dit que Washington avait insisté, on dirait aujourd'hui vulgairement lourdement, mais il avait insisté sur un fait capital: absolument ne jamais diviser l'Union.
Oui, tout à fait.
C'était son principe directeur. Ne jamais diviser l'Union. Régler les problèmes de toute façon possible, mais en aucun cas ne diviser l'Union.
Tout à fait.
Capital.
Oui.
Et donc, ce qui est très important dans ça, c'est pas dans la déclaration d'indépendance, mais ce qui est très important dans la Constitution, qui vient quand même renforcer la déclaration 11 ans plus tard, c'est trois idées, comme vous l'avez dit, les droits donnés par Dieu à tout individu qui a sa naissance, la liberté qui, bien entendu, n'est pas sans limite, et puis, troisième principe,
les devoirs aussi.
Les devoirs, ça va avec.
Les devoirs. Il faut dire que le...
Et un gouvernement minimal qui respecte le citoyen.
Tout à fait.
Ça, c'est capital. Oui. Et donc, le peuple est souverain.
De façon générale, y compris en Europe, avant qu'on s'éloigne de la religion, que ce soit catholique ou protestante, la plupart des lois d'un pays ou d'un État, c'était par rapport aux 10 commandements de la Bible. C'était pas par rapport à conduire 50 km à l'heure sur le périphérique parisien, des choses comme ça. Ils ne s'occupaient pas des choses comme ça. Tout ça, c'est venu après la laïcité, le développement de la laïcité, qu'on fait des lois sur tout et rien.
Vous avez tout à fait raison de parler de ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'au contraire encore de la Révolution française, qui était une révolution athée, dont le Dieu était la raison, vous vous rappelez, eh bien là, ce qu'on appelle à tort la Révolution américaine, en fait, cet ensemble de textes quasiment sacrés, les textes fondateurs de l'Amérique, tous se réfèrent à Dieu. Alors, qui est Dieu ? Est-ce que c'est le Dieu des chrétiens ? Ce n'est pas mentionné, mais dans la devise américaine, qui a été créée en 1785, c'est « In God we trust », c'est-à-dire, ça veut dire quelque chose, ça veut dire « Il y a une autorité supérieure à l'homme, au-dessus de nous, à laquelle on se réfère. On n'est pas, nous, êtres humains, on ne décide pas de tout, il y a plus puissant, il y a plus haut que nous. »
Washington l'appelait l'architecte suprême.
Voilà, il avait tout à fait raison. Voilà. Et même Jefferson n'était pas, comme on l'a souvent dit, un simple déiste qui aurait vu dans la nature une expression divine. Même lui adhérait finalement à des principes qu'on peut qualifier de chrétiens.
Tout à fait.
Donc, voilà.
D'où le serment sur la Bible.
Exactement. Voilà. Exactement. Tout à fait. Alors, justement...
Alors qu'une démocrate, cette année, a prêté serment sur... l'autobiographie de... comment il s'appelle X
Malcolm X. Mais c'est inconstitutionnel. Donc, son serment devrait avoir aucune valeur.
Oui, logiquement, oui.
Est-ce que c'est vrai qu'Obama avait prêté serment sur le Coran?
Non, il paraît qu'il a prêté serment sur la Bible du personnel d'Abraham Lincoln.
D'accord. Alors...
Pendant qu'il était président, il y a eu le 150e anniversaire du Gettysburg, de la bataille de Gettysburg, de toute la guerre de sécession. Il n'a pas daigné se déplacer une seule fois pour faire honneur aux autres. Parce que ce qui compte pour la gauche, c'est l'ingratitude. Il n'y a jamais de la gratitude.
C'est vrai, ça.
Alors que les Américains, pensez à eux quand ils vont manger le soir, dîner ensemble, c'est toujours... un peu de gratitude pour ceux qui sont venus avant eux et pour Dieu.
J'ai perdu mes notes. Je voulais vous parler un petit peu aussi de la construction de la Maison Blanche. C'est Washington qui décide, parce que jusqu'à 1800, les présidents, alors le premier président c'est George Washington bien entendu, ça va de soi, donc de 1789 à 1087,
la ville de Washington soit construite, c'est d'abord à New York et plus tard à Philadelphie.
Oui, voilà, que résidait le président américain.
Voilà. Et le gouvernement.
Mais justement, Washington avait perçu là qu'il y avait un manque. Il avait dit qu'il faudrait tout de même une demeure présidentielle. Oui. Et donc, il n'existait rien, ils l'ont fait construire.
Et se tourne vers un Français nommé L'Enfant pour construire la ville de Washington.
Ça, c'est la ville de Washington.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Mais ce n'est pas la Maison Blanche.
Non,
la Maison
mais je n'ai pas dit ça.
La Maison Blanche
je n'ai pas
été,
dit ça.
La Maison Blanche a
je
été
n'ai pas dit ça,
conçue...
Evelyne.
Vous ne m'avez même pas laissé finir ce que je voulais dire. La Maison Blanche a été conçue par un architecte dont j'avais le nom sur mes feuilles et que je ne retrouve pas, évidemment, au moment où je les cherche. Un architecte anglais, en fait, d'origine irlandaise. Le nom me reviendra peut-être. Et il lui a commandé une demeure coloniale. Et donc, cet architecte a fait cette superbe maison à colonnade et blanche. Et c'est l'enfant qui, effectivement, alors je ne sais pas si c'est Washington qui l'a trouvé, lui était bien un Français, Charles l'enfant, a voulu pour la jeune Amérique une capitale qui n'est rien à envier aux capitales européennes. Et donc, vraiment, mission réussie. Parce que c'est splendide, les plans de Charles l'Enfant.
Tout à fait.
Et donc, ces très, très grandes avenues, rectilignes, cette découpe au carré, en bloc, quelques grands et beaux monuments par-ci, par-là. Alors, ça serait peut-être l'occasion, même si c'est plutôt le cadre de la deuxième édition, ça serait peut-être l'occasion de parler des aménagements que Trump a fait pour le 4 juillet 2026, c'est-à-dire pour samedi en 8. Et donc, il a commencé ce qu'on appelle l'embellissement de Washington, pas seulement celui de la Maison Blanche avec la grande salle de bal, mais l'embellissement de Washington. Et alors, vous avez dû entendre dans les actualités que déjà des vandales avaient mis des algues et saccagé le fond de la... le plan d'eau qui est devant le mémorial de Lincoln.
Ouais.
Et donc, Trump a dit hier soir à la télévision que ça allait être réparé à temps. Et il a prévu, évidemment, des manifestations magnifiques dans la capitale. Et alors, quand même, comment est-ce que la gauche peut, là encore, dénigrer Trump? La gauche a découvert, avec tout le monde d'ailleurs, qu'il y avait quand même 22 fontaines dans Washington. Des fontaines qu'on n'avait jamais vues marcher.
Oui.
Et il les a fait mettre en activité. Il a fait restaurer toutes les statues, y compris celles que la foule gauchiste de Cancel Culture avait
tagué,
saboté, cassé. Il a fait réériger toutes les statues.
Oui, rénover, oui.
Tous les parcs ont été revus, qu'il n'y ait pas de coin douteux, etc. Les SDF, eh ben, je suppose qu'ils ont été pris en charge quelque part, mais il n'y en a plus. La police est passée par là, la ville serait, paraît-il, désormais sûre. Enfin bref, Washington redevient magnifique. Je dois dire aussi que ce n'est pas sans... d'éteindre sur le coup des hôtels.
Oui.
Mais tout cela montre, toute la ville de Washington montre à quel point les pères fondateurs adorent le monde gréco-romain et tous les discours qu'ils ont faits.
Oui.
Et ils sont pour la pièce la plus célèbre en Amérique avant la Révolution, c'était une pièce sur Caton, qui était un des grands républicains. Et Jules César, contrairement à aujourd'hui, n'était pas du tout un héros pour eux. Pour eux, c'était un dictateur. Et on n'était pas contre le fait...
Pour Jefferson, surtout.
Oui, oui, oui.
Mais pas pour, peut-être pas pour d'autres, pas pour d'autres pères fondateurs.
Mais Jules César n'était pas du tout un héros comme il est aujourd'hui à la Napoléon, je dirais.
Alors, Le jeune Congrès, en fait, est-ce que c'est le Congrès qui décide ou non, c'est l'Assemblée constituante qui a décidé qu'il y aurait un Congrès avec deux chambres.
Oui, oui, c'est ça.
C'est en fait là que ce qui est décidé, alors, la structure qu'on connaît encore aujourd'hui.
Alors là, c'est une grande confusion parce qu'ils veulent d'abord les Virginiens. Ce qui est l'État le plus peuplé, ils veulent juste une chambre de représentants par rapport à la population. Et les petits États comme Rhode Island, hein, ils disent non, vous êtes fous, on sera vos esclaves. Alors nous, on veut un endroit avec deux représentants par État, quelle que soit la population. Et c'est là qu'ils décident de faire un compromis. Qui est le Sénat, deux sénateurs, et puis la Chambre des représentants.
Et justement, c'est ce que les gauchistes aujourd'hui voudraient abolir. Ils voudraient la proportionnelle. En fait, ils voudraient abolir carrément la représentation telle qu'elle est au Sénat. Parce que la Californie, ils ne peuvent pas comprendre que la Californie, par exemple, qui est très peuplée et pleine de gens qui votent à gauche, illégalement d'ailleurs, ils voudraient que ce soit proportionnel, ce qui défavoriserait les petits États, géographiquement petits États.
Ouais, ouais.
Voilà. Et donc, moi, je trouve que la Constitution est admirable, elle est parfaite.
Ouais.
et elle n'a pas besoin d'être changée.
Alors, tout à fait.
Ils ont, vous parliez de,
Et je veux juste citer une histoire qu'on dit toujours sur la démocratie. C'est la démocratie, c'est quand on décide ce qu'on va manger ce soir et que les gens qui décident ça, ce sont deux loups et un brebis. Voilà.
Et bien,
alors, la Constitution, c'est la loi de la majorité, mais avec la défense de la minorité en même temps. Ici, on parle de la minorité des États peu peuplés.
C'est aussi au tout début de cette jeune république que tout est décidé. Donc, les bâtiments viennent en fait de ce que la Cour suprême, elle existe d'abord sur le papier. Et après, il faut lui donner un cadre physique. Donc, tout ça, le Congrès, le Capitole, c'est la représentation physique du Congrès. Voilà. Et donc, et comme vous le disiez, c'est une architecture néo-coloniale. C'est-à-dire que, oui, ça s'inspire énormément de l'architecture gréco-romaine, avec quand même aussi un petit peu, pour les habitations privées, le caractère géorgien, c'est-à-dire celui qui était honoré à l'époque de George III. Pour ça, quand vous allez à Washington, vous voyez beaucoup de... Pas les bâtiments officiels, mais beaucoup d'habitations encore qui ont plus de 200 ans, style George III.
Pour faire une rapide comparaison avec Trump aujourd'hui, il y a eu beaucoup de critiques qu'il ait voulu faire une nouvelle aile à la Maison-Blanche. Or, là où le Congrès, où se rencontrent tous les sénateurs et tous les représentants, elle a été aussi beaucoup plus petite quand elle a été construite au 19e siècle. Et on a rajouté des ailes d'un côté, puis de l'autre. Et maintenant, si vous allez le visiter à Washington, on va vous faire visiter l'ancien Sénat et l'ancienne Chambre des représentants, qui n'est plus du tout le même qu'ils utilisent aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, à propos d'embellissement de Washington et du goût de Trump pour les grandes et belles choses, et avec beaucoup de dorures, évidemment, la gauche se dresse comme un seul homme. On peut peut-être parler de l'inauguration de la Presidential Library. Vous savez, tous les présidents américains depuis Franklin Roosevelt veulent que leurs legs soient rassemblés dans une... Ce n'est pas une librairie, mais c'est une...
Un grand bâtiment, un grand centre présidentiel.
Oui, un centre présidentiel. Alors, il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Oui. Celui de Reagan est particulièrement beau.
Super.
Parce que d'abord, il est en Californie et il y a un jardin
et
des colonnades et il est très beau. D'autres, je ne les connais pas, je dois dire, je ne les connais pas tous. Mais celui de Obama s'inscrit véritablement dans la laideur absolue. C'est un blockhaus. Imaginez un blockhaus qui se dresse. Alors, au lieu d'être enterré, comme les blockhaus allemands du mur de l'Atlantique, là, c'est en hauteur.
Voilà, il fait huit étages.
Huit étages, c'est une laideur extrême. Ouais. Et alors, c'est même pas droit, c'est biscornu. Mmh. Je sais pas où... Et alors, ça a coûté près d'1 milliard de dollars, quand même, et avec retard sur les plans prévus. Donc, c'est le contraire absolu de Trump, une fois de plus.
Tout à fait.
Voilà, rien n'est respecté. Et c'est d'une laideur inouïe. Et ça invite à taguer, quoi. On aurait envie de...
Alors, il y a une librairie qui n'arrive...
Attendez, je disais ça, parce que ce sont les mêmes qui n'ont rien dit sur la laideur du bâtiment d'Obama et qui contestent les embellissements que Trump a prévus pour le 4 juillet à Washington.
Et alors que Joe Biden n'arrive même pas à trouver l'argent pour se faire construire son propre centre présidentiel.
Non, il n'en a pas besoin. Il a fait le troisième mandat d'Obama, donc il est représenté dans la...
Il était à l'inauguration.
Oui,
et
il ne trouvait pas
perdu.
La sortie.
Voilà, il s'est perdu.
Comme toujours, comme toujours. Alors, maintenant, où est-ce que nous en sommes dans notre... Alors, il nous reste 20 minutes. Eh bien, on va parler des tout débuts de la jeune République. Alors, l'achat de la Louisiane. Mm-hmm. Donc, alors, Abigail et John Adams entrent à la Maison-Blanche en 1800, pile, dans la toute belle demeure.
Ce sont eux qui l'ont inaugurée.
Absolument, ouais. Ce sont eux qui l'ont inaugurée. Avant cela, il y a eu la fameuse affaire Y, Y, euh, XYZ, combien bon, temps dont j'ai parlé.
Excusez-moi, combien de temps a-t-il fallu pour construire enfin, c'est donc,
quelques années, ça a été assez rapide.
Oui, parce que c'est Washington, donc,
puisque c'est Washington dans les années 90 qui a émis le désir, où lui-même d'ailleurs n'y a jamais résidé. Donc, et elle a été prête en 1800 pour que... Voilà. Alors Abigail Adams, un petit mot sur elle, c'est une femme très intéressante de la Révolution américaine. C'est vraiment une Américaine telle qu'on les voit aujourd'hui, très en avance pour son temps, femme politique. L'argent, les questions d'argent, elle était très bonne. C'est elle qui tenait les cordons de la bourse et elle se débrouillait très bien. Tous les deux, ils ont eu le.
Vous voulez entendre une histoire sur elle?
Bah attendez, je suis en train d'endurer une moi-même.
D'accord. Peut-être.
Je les mentionne parce que leur fils, et c'est le seul cas dans l'histoire américaine, sera lui aussi président des États-Unis plus tard.
John George Quincy. Bush.
Alors, il était très vilain physiquement, je trouve, mais il paraît qu'il avait le quotient intellectuel le plus élevé de tous les présidents américains. 151.
Oui. Voilà. Abigail Adams est toujours citée par les féministes parce qu'elle a dit, lorsqu'ils ont écrit la Constitution, elle a écrit son mari. Et pour les femmes, vous n'allez rien faire. Et c'est toujours cité par les féministes. Mais la réponse du mari, John Adams, n'est jamais citée. Il a rigolé, il a dit, de toute façon, vous tenez les rênes de la maison et tous les maris vont voter comme vous le désirez. Donc ça, c'est...
C'est pas sûr du tout qu'elle ferait partie des féministes aujourd'hui,
non,
du reste.
Pas du tout. C'est tout à fait exact.
Alors, il faut qu'on parle de l'achat de la Louisiane.
Tout à fait.
Alors, l'achat de la Louisiane, racontez-nous.
La seule chose que demande Thomas Jefferson, c'est d'acheter la ville de la Nouvelle-Orléans.
De la Nouvelle-Orléans.
Et
rien que pour la Nouvelle-Orléans, le président Jefferson, puisque c'est lui qui est venu maintenant, le président Jefferson avait proposé 10 millions de dollars.
Je ne sais plus les sommes exactes.
Et en fait, ses envoyés, dont James Monroe, qui lui aussi sera président plus tard, James Monroe et l'autre, je ne sais plus qui c'était, ont réussi à avoir toute la Louisiane pour 15 millions de dollars. Ce
déjà,
qui est inouï.
Nous voyons qu'ici, le Mississippi, c'est toutes les rivières sont les autoroutes de l'époque pour aller très vite, pour partir vite et pour vendre les produits. Et donc, ils veulent... la ville de la Nouvelle-Orléans. Et c'est là que Napoléon dit, c'est l'empereur Napoléon qui leur dit, on va tout vous vendre. Parce que, encore une fois, l'armée française est la plus puissante, mais sur mer, c'est normalement la flotte anglaise qui est la plus puissante. Et il dit, on va perdre l'Amérique de toutes les façons, il va falloir qu'on vende cela. De la même façon que l'Espagne vendra la Floride.
Alors, justement, comme nous avons un programme musical chargé pour la deuxième partie de cette émission, je propose qu'on écoute une musique, qui est en fait une musique symphonique, et qui a été choisie pour le film La conquête de l'Ouest en français, How the West Was Won, de John Ford, c'est bien ça?
Il y avait cinq metteurs en scène différents.
Et musique symphonique et qui donne le souffle vif. Parce que cet achat de la Louisiane, qui n'est pas que l'État de Louisiane qu'il y a aujourd'hui, mais la plupart des territoires de l'Ouest, du Grand Ouest.
Ça monte jusqu'au Canada.
Ça lance en fait la conquête de l'Ouest. Donc on écoute cette musique magnifique.
Thank you.
Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous aurez apprécié. Moi, je trouve que c'est très emblématique de...
Tout à fait.
De l'épopée américaine, telle que nous en parlerons dans la deuxième partie. Alors, pour terminer cette première partie, entre-temps, j'ai retrouvé mes feuilles sur la Constitution des États-Unis, figurez-vous. Alors, cette Constitution, les sept articles dont nous avions parlé, donc, établissent le pouvoir exécutif, président exécutif, le pouvoir judiciaire, dont la Cour suprême, régit les relations entre État et gouvernement fédéral, la fameuse question de fédéraliste ou anti-fédéraliste. Article 5, la procédure de modification, les amendements futurs donc à la Constitution. Article 6, la suprématie de la Constitution et du droit fédéral sur les lois aux États. Voilà, là c'est, on est en plein dans le fédéralisme pur. Article 7, les modalités de ratification de la Constitution. Et en plus de ces articles, sont ratifiés les premiers Bill of Rights, les droits, la Charte des droits. Voilà, garantissant les droits et libertés fondamentaux. Alors, les auteurs, James Madison, le gouverneur Morris, principal rédacteur du texte, et c'est James Madison, autant que Jefferson est appelé le père de la Déclaration, même s'il ne l'a pas à lui tout seul, là, même s'il n'était pas lui tout seul non plus, c'est quand même James Madison qui est considéré comme le père de la Constitution. Voilà. Et il sera le quatrième président des États-Unis.
Tout à fait.
Et nous parlerons de lui et de Jackson. Juste après cela, enfin on va voir, peut-être que nous allons avoir le temps maintenant. Alors, l'ouverture de la Constitution, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est « We the people ». « We » avec un grand W et « the people » avec un grand P. Voilà, c'est le souverain. Le souverain, c'est le peuple. Donc, Hamilton est défenseur d'un gouvernement fédéral fort, comme vous l'aviez dit, Eric, tout à l'heure, et... Il contribue de manière décisive à faire ratifier la Constitution et sont créés les fameux Federalist Papers. Ça, c'est très important parce que la plupart des pères fondateurs vont écrire des articles.
Voilà,
dans,
tout à fait.
Et donc, aujourd'hui encore, la Cour suprême, quand elle débat de sujets épineux, se réfère à ces articles des Federalist Papers. Benjamin Franklin, le plus âgé des délégués, a apporté lui son influence morale et puis aussi sa longévité. Il a quand même été aussi le premier ambassadeur de la jeune Amérique, il ne faut pas l'oublier. Il a fondé l'American Club à Paris. Il a fait énormément de choses dans Benjamin Franklin, c'est extraordinaire. Et donc, il a apporté sa crédibilité, même si lui était très âgé et souffrant à l'époque et a peu participé au débat. D'autres figures importantes incluent, ai-je lu, James Wilson, qui a défendu le principe de la souveraineté populaire, et puis Roger Sherman, artisan du grand compromis, vous parliez tout à l'heure, sur la représentation des États, donc la part de l'État fédéral et la part des États. C'est très, très bien, voilà. Et moi, j'ai entendu des professeurs d'université qui pataugent encore un peu sur ces questions. C'est parce que c'est complexe, c'est très complexe. J'ajoute une chose, c'est que tous ces textes anciens sont écrits dans un très bel anglais du XVIIIe siècle, que la plupart du temps, ils ont, comme dans la langue anglaise, les mots ordinaires ont des lettres majuscules et que la syntaxe est parfois un petit peu difficile pour les gens de notre époque. Mais néanmoins, quand la gauche dit « Ah bah c'est compliqué, on va pas se... C'est des textes qui ont été écrits par des gens qui sont morts il y a 200 ans, on va pas se... » Non, si vous lisez bien, c'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair. Il suffit de se réapproprier le langage de l'époque, qui était, je le répète, d'un niveau très élevé.
Un message est arrivé.
Oui,
enfin,
très bien.
Un auditeur qui écoute fréquemment. Bonjour à toute l'équipe, excellente émission. C'est humoristique. Est-il vrai que la Maison-Blanche est hantée ? Bien courtoisement. Alors, moi, j'aurais tendance à répondre que toutes les maisons sont hantées.
Ouais.
La seule chose, c'est qu'elles peuvent être hantées par de bons esprits ou par de mauvais esprits.
D'accord, oui.
Alors, à vous de choisir.
Ça, j'en ai aucune idée.
C'est vrai. Et alors, il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont vu le fantôme d'Abraham Lincoln dans la Maison Blanche quand ils étaient là, en visiteurs, qui ont, ils ont passé la nuit là-bas.
Des gens un peu médiums, oui. C'est,
je ne sais pas s'il faut trop y croire. Je voulais juste te dire une chose sur une dernière chose sur la Louisiane. La première personne auquel le président Jefferson pense pour devenir le premier gouverneur de cet énorme territoire, c'est Lafayette en personne. Et Lafayette, il dit, maintenant je travaille en France, ma vie est en France. Donc il est obligé de nier. Mais je voulais juste vous dire, le nom du fils de Thomas Jefferson, c'est George Washington Lafayette. Non, le nom du fils de Lafayette, c'est George Washington Lafayette.
À propos de...
Le nom de sa fille, oui, c'est Marie-Antoinette Virginie Lafayette. Et quand il a entendu ça, Benjamin Franklin a dit, maintenant votre épouse a besoin d'avoir 12 autres enfants pour avoir un enfant par état de l'union.
Oui, c'est amusant comme anecdote. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié une petite chose sur Jefferson. Il faut rétablir quand même son nom sur un point. On dit qu'il a eu un enfant de Sarah Hemings, qui était une de ses esclaves. En fait, les chercheurs ont cherché, c'est le cas de le dire, et ont trouvé qu'il y avait bien effectivement, dans les descendants de Sarah Hemings, il y avait bien un ADN Jefferson, mais ça ne prouve pas du tout que ce soit celui de Thomas Jefferson. Parce qu'il avait un frère qui était son contraire, qui était un mauvais sujet, qui était bagarreur, coureur de femmes, et coureur de femmes, y compris de la population ancillaire, quelle que soit leur couleur. Et donc, ce serait plus vraisemblablement le frère de Jefferson et non pas lui. Je pense que c'est quand même important.
Ou voir son neveu.
Le fils du frère, oui, du mauvais frère.
Exactement.
Très, très bien, voilà.
Dernière chose, c'est qu'on dit souvent que les Américains ont oublié que les Français les ont aidés pendant la Révolution. Je ne connais aucune histoire de la Révolution où on ne parle pas des Français. Et surtout, il y a plus de villes aux États-Unis nommées d'après Lafayette que nommées d'après Washington, Lincoln ou Jefferson.
À vrai dire, nous aurions dû, nous, avoir une relation spéciale avec l'Amérique. Et d'une certaine manière, nous en avons une aussi.
Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le héros des deux mondes.
Oui, oui, oui. Hein? Et moi, je m'apparente, je trouve que je ressemble un peu à Lafayette, j'arrive pas.
Oui.
J'adore les deux, mais mes racines sont quand même là.
Vendéenne.
Oui, tout à fait.
Si on vous offre de devenir gouverneur de la Louisiane, vous n'acceptez pas.
Non.
D'accord.
Non. Non. On a vu donc que l'Ouest, la conquête de l'Ouest va commencer. Alors, ça commence par, avant d'exploser véritablement, bien avant la découverte de l'or en Californie.
L'Ouest, c'est toujours très près de l'Est.
Il y a cette expédition. Alors, l'achat de la Louisiane, c'est 1804.
Oui.
Et la première expédition pour aller explorer ce vaste territoire, eh bien, c'est celle de Lewis et Clark en 1806.
Voilà.
Et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un film qui aurait dû être fait et qui ne l'a pas été sur cette expérience magnifique. Ouais, vous imaginez ce qu'ils ont dû découvrir ?
Tout à fait.
Il n'y avait que des Indiens, que des animaux. Et
chose très intéressante. Pendant les premiers 1000 kilomètres, 600 miles, c'est-à-dire pendant un mois et demi jusqu'à deux mois, ils montent le Mississippi, ils ne voient pas un seul Indien. Pas un seul. Ils ne voient pas un âme qui vive. Alors, les gens qui parlent toujours des Indiens qui ont eu leur terre, qui ont été volés, c'est très exagéré.
Alors, chers auditeurs, si vous voulez savoir ce qu'est devenu l'Amérique après les tout débuts, eh bien, vous écouterez notre prochaine émission qui sera dans 4 semaines.
Quel jour ?
Ce sera le 22 juillet.
Vous venez d'entendre entendre le Libre Journal du Nouveau Monde, dirigé par Evelyne Josselin, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 24 juin 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.